Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on poursuit notre parcours. On va aborder aujourd'hui l'Église du Christ, originalité de la foi chrétienne. Alors, en introduction de ce point, on repart de l'essentiel, du fondamental, du fondement même, de la révélation de Dieu et de sa manifestation en Jésus-Christ, parce que la révélation fonde notre foi. Et le point d'orgue de notre foi, c'est la résurrection du Christ. Et c'est sur cette attestation, sur son attestation, c'est-à-dire sur l'attestation que le Christ est vraiment ressuscité, que l'Église est fondée par les apôtres après en avoir reçu la mission. Donc lorsque nous parlons de foi, nous parlons de la foi de l'Église, mais aussi de la foi intériorisée dans l'attitude spirituelle de chacune et de chacun, en tout cas de celle ou de celui qui croit, mais tout en sachant que cette foi est la foi de l'Église du Christ et que l'Église est gardienne du dépôt de la foi. Du dépôt de la foi, de la tradition et des Écritures. Donc l'Écriture contient des mots qui vont exprimer la foi, mais elle ne contient jamais le mot en tant que tel. Donc on a émet pour l'hébreu, on a pistis pour le grec et on a fides pour le latin. Donc il y a bien des mots qui vont exprimer la foi de celui qui parle ou de celui dont on parle dans les Écritures, mais le mot en tant que tel n'est pas directement cité comme cela. Ça veut dire que la foi du croyant, dans la mesure où on en parle, on pourrait dire qu'elle devient acteur, actrice dans l'Écriture. C'est-à-dire qu'elle va mettre en œuvre la foi dans des attitudes particulières, des attitudes intérieures. Mais les attitudes intérieures de la foi vont engendrer, peut-être même impliquer, une attitude extérieure. On pourra même parler de comportement éthique lié à la foi intérieure. Donc la foi, c'est quelque chose de personnel, on n'en doute pas, c'est une affaire personnelle, parce qu'elle a son origine en Dieu et qu'elle nous concerne personnellement, mais on voit bien, dans le même temps, elle a une incidence sur notre comportement relationnel avec les autres, notre comportement à l'extérieur. Donc la foi demande de notre part une attitude de sincérité, d'authenticité. Parce que cette foi qui a été reçue à la suite des apôtres, eh bien, engage, et ça engage tout l'être dans sa totalité. Pas simplement un comportement quand on est au travail, un autre quand on est en famille, encore un autre quand on est dans la rue. Donc c'est vraiment une foi qui va englober tout l'être et qui le fait vivre dans une communauté ecclésiale particulière. Une communauté qui confesse la même foi. Et cette foi, elle est à transmettre. On ne la garde pas pour soi-même. C'est ainsi que la foi qui nous fait vivre, qui est la foi de l'Église, c'est une foi qui s'inscrit dans un mouvement de réception, puisque nous la recevons, mais en même temps dans un mouvement de transmission. C'est pour ça que la foi n'est pas une affaire strictement personnelle. Ce n'est pas quelque chose que nous gardons pour nous-mêmes. Elle engage celui ou celle qui croit à transmettre ce qu'elle a reçu. Et puis dans le même temps, nous devons reconnaître que la foi demeure un mystère. Alors quand on dit c'est un mystère, c'est pas une manière de se dérober. C'est parce que de fait, nous ne pouvons pas expliquer rationnellement pourquoi nous croyons. Nous pouvons éventuellement relire la manière dont nous croyons, mais on ne saura pas répondre à la question du pourquoi nous croyons. On croit, c'est tout. Et c'est presque en dépit de nous. C'est comme ça. On peut pas, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question, et c'est pour cela que la foi demeure un mystère. Elle demeure aussi un mystère pour ceux qui ne croient pas, qui pourraient se poser la question. Pourquoi y en a-t-il qui ont la foi et d'autres qui n'ont pas la foi? Ça demeure... Alors, c'est vrai que quand je répète que ça demeure un mystère, on a l'impression qu'on se... on n'a pas d'explication à donner, c'est un mystère. Mais de fait, on n'a pas la capacité... En tout cas, on aurait la capacité intellectuelle, logique et rationnelle, mais ce mystère-là dépasse toute rationalité, dépasse toute dimension intellectuelle, parce que ça fait partie d'une dimension intérieure, personnelle et en même temps communautaire, pour laquelle nous n'avons pas vraiment de réponse. Nous avançons selon notre foi et selon la foi qui nous habite au moment où on peut l'exprimer. Donc je vous propose notre premier point, c'est l'Église et le mystère de la foi. Alors, comme on l'a abordé dans les cours précédents et comme j'en parle là à l'instant, la foi, le mystère de la foi s'origine dans la manière dont Dieu se révèle aux hommes, c'est-à-dire comment il va montrer sa puissance d'amour dans l'incarnation du Fils, et que cette puissance d'amour se révèle totalement en son Fils. Et on a vu tout au long des séances, quand on a abordé la crucifixion et la résurrection, que cette puissance, elle est paradoxale. Elle est puissance d'incarnation dans l'amour et elle est en même temps puissance d'abandon, de déréliction dans la croix. Donc Dieu se révèle d'une manière particulière et le fait de voir que Dieu se révèle d'une manière aussi paradoxale, qu'il est capable de puissance et aussi de faiblesse, est une manière de montrer qu'il y a en Dieu un mystère insondable et que de cela, nous ne pouvons pas dire quelque chose. Nous pouvons approcher un langage théologique ou spirituel, mais en aucun cas, ce langage-là nous apportera des réponses, nous apportera une élucidation du mystère en sa totalité. Et c'est quelque chose que nous devons accepter. Et l'acceptation est déjà un acte de foi. Alors, notre point 1.1, le mystère de la foi en Jésus-Christ. D'abord, l'Église, on le voit bien, elle n'est pas fondée de rien. Elle n'est pas une institution qui émane d'une volonté humaine. Alors bien sûr, elle est organisée hiérarchiquement, de manière humaine, mais son existence, la volonté qu'elle existe, vient du Christ lui-même, mort et ressuscité. L'Église à laquelle nous y croyons parce que c'est l'Église du Christ et que nous croyons d'abord au Christ qui nous a laissé l'Église. Donc le fondement de l'Église s'inscrit dans l'unité de deux événements. D'abord la mort et la résurrection du Fils, premier événement, et le deuxième événement, vous le savez, c'est le don de l'Esprit à la Pentecôte. Donc le mystère d'une incarnation par laquelle les hommes connaissent Dieu et sont sauvés par lui. Et donc nous, aujourd'hui, qui n'avons pas connu le Christ, nous avons accès au mystère par les Écritures dans l'Église. Et les évangiles nous permettent à la fois de connaître Jésus, mais aussi de connaître le milieu dans lequel il vivait. Ça, c'est important, parce que ça nous dit, ça inscrit Jésus, le personnage Jésus, dans une histoire réelle, une histoire passée. Cela nous montre, et les évangiles nous montrent, qu'en, non pas expliquant, mais quand nous avons des éléments du milieu, du contexte historique dans lequel vivait Jésus, que Jésus n'est pas un personnage légendaire, qu'il est connu de son milieu, qu'il a eu des contradicteurs religieux et des contradicteurs politiques. Donc on a bien des écritures qui nous montrent l'existence d'un homme, Jésus de Nazareth, qui est confessé comme étant le Fils de Dieu, qui est mort et ressuscité le troisième jour. Donc ça, l'Écriture est garante de ce dépôt. Donc c'est bien un personnage de l'histoire que nous pouvons découvrir dans les Écritures, dans les Évangiles, mais ce n'est pas un personnage historique au même titre qu'un Napoléon ou qu'un Louis XIV. On est bien dans une autre dimension, parce que Jésus est entré dans l'histoire par la volonté de Dieu, par la volonté de son Père, une volonté d'amour et d'incarnation. Mais il n'empêche que Jésus est aussi un personnage historique, un personnage de l'histoire des hommes. Seulement, on ne peut pas le réduire à seulement être un personnage historique. C'est aussi un homme singulier, un homme particulier. D'abord, il se révèle à nous dans les Écritures. Ensuite, il se donne dans les Écritures, mais aussi dans et par les sacrements. Voilà une manière particulière. On peut le rencontrer de multiples façons, il peut venir à notre rencontre de multiples façons, et la façon dont il nous rencontre a à voir avec sa volonté propre. Mais nous avons l'Église, les sacrements, l'Écriture. Et donc Jésus continue de se donner sacramentellement comme don de lui-même, comme présence et comme vie pour chaque homme et chaque femme. Cela signifie donc que l'annonce kérigmatique, cette annonce proclamée par les apôtres, par les pèlerins d'Emmaüs, au retour vers Jérusalem, et qui s'exclament « Oui, vraiment, le Christ est ressuscité », eh bien, cette annonce continue d'être témoignée aujourd'hui. Donc vous voyez bien que le message de la résurrection du Christ n'est pas un message qui est un message qui serait dévolu au passé, qui serait réduit à une légende du passé. C'est quelque chose qui demeure toujours actuel et que nous découvrons chaque dimanche dans les Écritures, en tout cas à la messe dans le livre de l'Ancien et du Nouveau Testament et dans les psaumes et bien sûr dans les sacrements que nous y recevons. Le deuxième témoignage qui est donné, mais ça on en a déjà parlé lors du mystère pascal, c'est bien entendu le message, en tout cas le témoignage de la mort des disciples et des apôtres qui meurent pour le Christ. Ce témoignage-là, ce n'est pas simplement l'histoire d'hommes qui ont suivi un autre homme et qui sont morts pour une cause. Ça pourrait être réduit à ça au niveau historique, mais c'est bien plus que ça. Parce que leur mort témoigne qu'ils ont été fidèles par amour au Christ, en raison même de ce qu'il a été, de ce que Jésus a été dans sa vie. Donc le témoignage de la mort des disciples et des apôtres, c'est un témoignage de foi. Et nous devons le recevoir comme tel, comme un témoignage de foi, et non pas comme un contexte historique un peu particulier. Et c'est donc à partir de cela que la foi de l'Église est fondée, à partir de l'événement Jésus-Christ et de tout cela. Je vais vous lire le texte de Joseph Moy, qui est le texte 1, qui est un petit texte qui est issu d'un de ses livres qui s'appelle « L'homme qui vient de Dieu » dans la grande collection Cogitatio Fidei. Voilà, et ce texte-là s'appelle « La rumeur de Jésus ». Son existence personnelle a une dimension, passée et future, illimitée. Depuis toujours, on l'annonçait, et il existe dès maintenant dans l'avenir de l'histoire, maître des temps à venir. C'est pourquoi il n'a fait que passer, traversant d'un pas rapide le temps et l'espace, mais la totalité du temps et de l'espace, comme s'il se hâtait d'atteindre au bout du monde le terme de l'histoire qui lui était assigné depuis le début des temps. Cette vérité de son événement ne peut pas être vue, elle ne peut être que dite et crue, c'est-à-dire annoncée. En un sens, elle est bien identique à la facticité de l'événement, elle est de passé, mais seul son rapport au passé prophétique et au dessein de Dieu fait la lisibilité de l'événement tel qu'il est annoncé. Ce sens mis de côté, l'événement pris au ras de l'observation empirique, se résume en un mot aussi rapide qu'énigmatique, « il a passé en faisant le bien ». Cette simple phrase désigne Jésus comme un homme hors du commun, au destin singulier, un homme qui suscite une légende, dont la rumeur constitue le personnage. Le narrateur ne s'arrête pas à décrire sa vie, il cherche à éclairer son destin, non exactement celui que Jésus a vécu, mais celui qui l'attendait alors que Jésus n'était pas là et qui l'attend encore alors qu'il n'est plus là. Voyez, Joseph Moy, il nous parle de la rumeur de Jésus. Cette rumeur de cet homme qui a passé en faisant le bien, qui n'est plus là, mais que l'on continue à rencontrer, qui continue à se faire connaître, voilà, à la fois pour celui qui l'attendait au moment où Jésus vivait, mais aussi pour celui qui l'attend encore alors que Jésus n'est plus là. Cela nous concerne. Nous sommes toujours prêts à rencontrer le Christ de la manière dont il décidera de le faire. Dans ce texte, Joseph Moy soulève également le risque qu'il y aurait à se détacher du Jésus de l'histoire, de ce qu'était ce Jésus de l'histoire, de ce qu'il était, mais aussi du risque qu'il y aurait à dissocier ce Jésus de l'histoire du Jésus singulier qui a passé en faisant le bien, qui a fait des miracles, qui a pleuré à la mort de Lazare, qui a sauvé la fille de Jaïr. Et donc c'est précisément l'histoire la vraie, nous dit Joseph Moy, celle qu'on raconte avant de l'écrire et que l'on continue de raconter aujourd'hui. C'est cela l'essentiel de la foi, dans la manière dont elle se déploie, dans la manière dont on peut la comprendre. Donc, en raison de la mission reçue de son père et reçue du père, eh bien, Karl Barth, le grand théologien protestant Karl Barth, eh bien, pour lui, Jésus a une fonction qui lui interdit la neutralité et qui lui interdit d'être inactif. Pour Karl Barth, Jésus ne peut pas être inactif, il ne peut pas être passif. Voilà, je vous lis ce texte. Jésus est le porteur d'une certaine fonction. Il n'est donc pas homme d'abord pour avoir ensuite également cette fonction. Il n'existe pas d'humanité neutre de Jésus. L'étrange affirmation de Paul dans 2 Corinthiens 5,16 « Si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière » pourrait être prononcée au nom même des 4 évangélistes. Ceux-ci n'ont éprouvé aucun intérêt pour ce que cet homme a pu avoir été et avoir fait en dehors de sa fonction de Christ, c'est-à-dire abstraction faite de l'accomplissement de cette fonction. Même en racontant qu'il a eu faim et soif, qu'il a mangé et bu, qu'il a été fatigué, qu'il s'est reposé et a dormi, qu'il a aimé, éprouvé même de la tristesse, qu'il s'est fâché et a même pleuré, ils n'ont fait que mentionner les circonstances qui ont accompagné des événements dans lesquels, à aucun moment, il n'est possible de voir apparaître quelque chose comme une personnalité vivant indépendamment de son œuvre, possédant certains désirs personnels, certaines tendances ou passions particulières. L'être de Jésus en tant qu'homme est identique à son œuvre. Vous voyez, là, Karl Barth dit de manière magistrale, on ne peut pas séparer Jésus de Nazareth du Christ, fils de Dieu. Il n'est pas homme simple qui aurait accompli une mission qu'on lui aurait confiée et à la fin, il aurait fait le bilan, ben voilà, j'ai rempli ma mission ou je ne l'ai pas rempli. Il est lui-même ce qu'il accomplit. Il est lui-même l'œuvre qu'il est en train de faire sous les yeux de ses apôtres. C'est-à-dire qu'il est en totalité, dans l'entièreté de son être, il est l'œuvre qu'il accomplit, il est l'accomplissement de son œuvre. Et les apôtres, ils sont témoins de cela. C'est pour ça que Karl Barth dit, s'il a eu faim, soif, mangé, bu, s'il a été fatigué, s'il a dormi ou même s'il a été triste, c'est pas ça qui les intéresse. C'est que tout ce qu'a ressenti Jésus, tout ce dont les apôtres ont été témoins de cette faim, de cette soif, de cette tristesse, et d'autres, ou qu'il ait dormi, cela montre à chaque fois qu'il a fait ça, ça a été rapproché de sa fonction. C'est parce qu'il est le Fils de Dieu qu'il a eu faim comme cela, qu'il a été triste comme cela, qu'il a éprouvé de la passion pour les foules qui n'avaient rien à manger, pour lequel il a multiplié les pains. Et vous voyez bien que la multiplication des pains, ce n'est pas simplement nourrir une grande foule, mais c'est aussi, ça augure, la multiplication des pains, ça augure notre Eucharistie. Ça augure ce pain dont les apôtres gardent le surplus dans des paniers. Ce surplus dans le panier, c'est le pain pour nous aujourd'hui, qui est réitéré à chaque fois qu'on va réitérer le sacrifice de la croix, la mort et la résurrection, mais la victoire de la résurrection à l'Eucharistie. C'est ce pain qui sans cesse se renouvelle, c'est la manne au désert du peuple dans le désert. Cette manne qui continue à nourrir notre foi notre dimension spirituelle et qui est par notre corps le signe d'un réceptacle, voilà, parce que c'est pas l'hostie qui nous nourrit, voilà, qui va être notre élément nutritif, mais c'est un autre élément, celui qui nourrit notre foi, notre croire, notre dimension éthique, parce que recevant cela, cela engage notre comportement. Voilà. Donc Jésus a mené sa vie dans la fidélité au Père et à sa mission. Et donc cette mission, vous le savez, on l'a souvent dit ici, il n'a pas vécu tout seul. Donc ça veut dire que Jésus va à la rencontre de l'autre. Et donc nous sommes aussi responsables de cela. Et ce n'est jamais une rencontre ordinaire, car dans cette rencontre s'accomplit ce qui adviendra de la vie de celui qui est appelé, qui répond à cet appel, qui répond à la présence de Jésus. L'appel de Jésus est la réponse, et la réponse des appelés, eh bien on peut dire qu'elle les place, et que parfois elle nous place devant la vérité de notre vie. Comment on répond à l'appel, ou comment, dans la liberté que Dieu met en nous, met en l'homme, de ne pas y répondre. Donc cet appel libère des conventions de la loi, comme elle a libéré les apôtres et les disciples des conventions de la loi mosaïque. Parce que Jésus les a appelés à une loi supérieure, qui est la loi d'amour, une exigence qui est au-delà de l'exigence de la loi, c'est l'exigence de l'amour, l'amour du prochain. Voilà. La nouveauté, c'est ben, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, c'est-à-dire que le fait de s'aimer soi-même n'est pas exclu de l'amour du prochain. Et que nous comprenons ce que peut être aimer l'autre si on comprend un tant soit peu comment on s'aime soi-même. Donc la loi ancienne et la justice, eh bien, elles vont se changer en loi d'amour par le Christ. Et ce changement, ben, c'est la nouveauté que Jésus vient apporter au monde, comme il l'a apporté à son époque. Pour ceux qui ont compris les paraboles, pour ceux qui ont compris, saisi ce qu'était la signification des miracles. Jean-Noël Besançon, qui est mort en 2014, dit que c'est en étant homme qu'il est Dieu. Vous voyez, c'est fort, c'est en étant homme qu'il est Dieu. Jésus ne se regarde pas être, dit-il aussi. Il est, il vit. Il ne se demande pas s'il a bien dit, s'il a mal dit, s'il a bien fait des choses, s'il aurait pu les faire autrement. Il est bien en dehors. Nous, on est là-dedans. À chaque fois, on se demande toujours, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien dit, oh, j'aurais pas dû dire ça. Voilà, on est tout le temps à se regarder vivre et à se juger. Mais Jésus, il ne se regarde pas être. Vous voyez, Jean-Noël Besançon a raison de dire cela. Il vit la mission parce qu'il est lui-même la mission. Donc elle s'accomplit. Et il la vit pleinement. Et il agit. C'est pour ça que Karl Barth dit « Jésus ne peut pas être neutre, il ne peut pas être passif, il ne peut pas être inactif. » Alors, il est actif en faisant des miracles, en soignant, en libérant. Guérison des corps et des esprits. Et donc c'est son comportement singulier, vous voyez, je dis même pas particulier, singulier, la manière avec laquelle il s'adresse avec autorité, qui va montrer sa détermination à accomplir sa mission. Jésus, c'est un homme déterminé, il transige pas, il avance. Et il révèle qu'il est, finalement, il va révéler qu'il est de Dieu, que lui-même est de Dieu. Et Pierre pourra dire, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Il ne l'a pas inventé de lui-même, Pierre. De fait, c'est d'avoir vécu avec Jésus, et sûrement aussi par l'inspiration de l'esprit qui lui fait dire cela. Donc sa condition d'homme n'enlève rien à la puissance de sa condition de Dieu. Vous voyez, être homme pour Jésus ne réduit pas ou n'amoindrit pas sa nature divine. Et cette puissance, l'Écriture nous la révèle dans un texte que vous connaissez bien, que sont les Béatitudes, en Matthieu 5, 1, 12. Celui qui, dans sa vie, est au cœur des Béatitudes, eh bien c'est Jésus lui-même qui vit. Et celui qui vit sa vie au cœur des Béatitudes, eh bien c'est de Jésus lui-même qu'il vit également. Donc cet amour est passé par la mort sur la croix, mais dans cette mort s'origine un amour incommensurable, un amour qui montre bien l'originalité de la foi chrétienne. Ce n'est pas simplement les dogmes qui font l'originalité de la foi chrétienne. Ce n'est pas simplement d'aller à la messe. Vous voyez ? C'est de se dire que l'originalité de la foi chrétienne, eh bien, c'est l'amour immense d'un Dieu qui accepte de mourir sur la croix et de cette force d'amour qui est une force de résurrection. Donc le paradoxe veut que la première reconnaissance exprimée de la réalité de Jésus comme fils de Dieu soit révélée par un centurion, le centurion au pied de la croix. On en avait déjà parlé, me semble-t-il. C'est le centurion qui, au pied de la croix, reconnaît que Jésus, à la manière dont il meurt, que vraiment cet homme est vraiment le fils de Dieu. Donc Jésus de Nazareth est reconnu comme étant le Messie. Alors pas dans ces termes-là, mais en tout cas, le Messie que les Écritures attendaient. Alors, que les Juifs de l'époque aient reconnu d'emblée à la manière dont il est mort, ou comme les païens, à l'image de ce centurion, ont reconnu Jésus comme étant le Fils de Dieu, ou ne l'aient pas reconnu, il n'empêche que Jésus n'a jamais adapté son comportement de manière à amoindrir ni ses souffrances, ni la manière dont il pouvait être reconnu, y compris au pied de la croix. Voilà ce que nous dit Joseph Ratzinger dans un livre que je vous recommande, qui date de 1976. Alors, il date un petit peu, mais en même temps, il est tout à fait actuel, il n'est pas épuisé. Il s'appelle « Foi chrétienne hier et aujourd'hui ». Celui qui reconnaît le Christ en Jésus, uniquement en lui, et qui reconnaît Jésus pour le Christ, celui qui perçoit l'identité totale de la personne et de l'œuvre, en y voyant le point décisif, celui-là a dépassé la problématique d'une foi exclusive, d'une foi opposée à l'amour. Il a réuni les deux, et rendu impensable leur séparation. Le trait d'union entre Jésus et Christ, l'union indissoluble entre la personne et l'œuvre, l'identité d'un homme avec l'acte du don de soi, représentant également le trait d'union entre l'amour et la foi. Il n'y a pas d'amour sans foi, et il n'y a pas de foi sans amour, semble nous dire Joseph Ratzinger. Et donc la foi catholique doit être perçue comme amour et non pas d'abord comme une doctrine. Voilà. Parce que l'Église du Christ, elle est fondée sur l'amour et non pas sur la doctrine. La doctrine viendra après. Et c'est bien l'amour qui est l'origine de la foi. Et ça nous amène à notre point, notre grand 2. L'Église du Christ. Donc on en est au grand 2, l'Église du Christ. Donc la foi de l'Église, c'est l'événement, vous l'avez compris, Jésus-Christ dans sa totalité, c'est-à-dire la mort, la résurrection, l'ascension, le don de l'Esprit à la Pentecôte. C'est tout ça qui fait l'événement, c'est pas simplement la mort et la résurrection, c'est aussi l'ascension et le don d'esprit à la Pentecôte. Et donc l'esprit est présent dès la création et il agit dès la création. Parce qu'au départ, au commencement, c'est l'esprit d'engendrement du Fils à l'incarnation. C'est aussi l'esprit de la résurrection après la passion. Après la passion et la descente aux enfers, on n'oublie pas. Et c'est aussi l'esprit donné aux hommes à la Pentecôte. Et cet esprit donné à la Pentecôte, c'est un don définitif. C'est pas un don provisoire. C'est un don et une présence définitive. Et cette présence définitive, nous la recevons dans les sacrements. Donc le don de l'esprit à la Pentecôte, à partir duquel naît l'Église, eh bien vient justement inaugurer le temps de la foi et aussi le temps de l'Église. Et ça aussi, c'est un événement pour les chrétiens. C'est un événement dans leur vie et c'est un événement aussi dans la vie du monde. Parce que l'Église, dans le monde, c'est une présence visible. Ce n'est pas juste un bâtiment avec un clocher, c'est vraiment bien plus que cela. Notre point 2.1, l'Église, c'est un événement du don de l'Esprit. Ce don de l'Esprit est un événement parce qu'il est fondé sur le kérygme. Jésus est vraiment ressuscité. Et ce sont les disciples qui vivent les premiers ce changement. Ils vivent le changement parce qu'à partir de leur annonce « Jésus est vraiment ressuscité », ils n'ont plus peur, les choses changent pour eux directement, ils n'ont plus peur. Ils sortent de la peur, de la crainte, de la tristesse et de l'angoisse. Ils passent de la tristesse à la joie. Ça veut dire qu'avant même l'annonce, eh bien, la résurrection de Jésus a un effet immédiat sur les disciples et les apôtres. Le premier effet, ce n'est pas simplement qu'ils sortent de la crainte, mais c'est qu'ils retrouvent la communauté, c'est qu'ils se regroupent. Ça aussi, c'est l'originalité de l'Église. L'Église, elle est fondée sur quelques hommes qui ont suivi Jésus et qui l'ont aimé, qui ont cru et qui ont témoigné de sa résurrection et qui ont refait groupe, qui ont fondé cette petite communauté à laquelle s'est agrégé les disciples d'Emmaüs et puis tous les disciples qui ont connu Jésus. Donc la communauté, c'est le commencement de l'Église. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est le rassemblement post-pascal. Avant, il n'y a pas d'Église, il n'y a pas de rassemblement. Et c'est cette petite communauté-là qui formera l'Église qui va naître. Et on trouve des termes, on trouve un terme dans le Nouveau Testament qui est traduit en grec, ce terme grec, c'est « ecclésia ». Voilà, la convocation, l'assemblée convoquée, le rassemblement de la communauté. Pendant que vous écrivez, je vous lis le Matthieu 16, 18, c'est le texte 4. « Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort n'aura pas de prise contre elle. » Et aussi en Acte 7, 38, « C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, se tenait entre nos pères et l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï. C'est lui qui reçut des paroles de vie pour nous les donner. Vous voyez la dimension de transmission des paroles de vie pour nous les donner. Eh bien, la communauté reçue du Christ a la mission de redonner ces paroles de vie. Donc l'assemblée se réunit autour des apôtres, elle écoute et reçoit l'enseignement qu'ils ont eux-mêmes reçu du Christ. Ils ne se rassemblent pas pour parler de la pluie du beau temps, mais ils partagent l'enseignement qu'ils ont reçu de Jésus, ils en font mémoire. Voilà, on peut lire dans l'Écriture, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Ça, c'est dans Actes 2, 42. Voilà ce que faisaient les communautés. Et quand on lit, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières, eh bien, ce verset-là, il nous indique un modèle de vie, déjà. Et ce modèle de vie, bah, si on regarde bien, c'est un modèle liturgique. La fraction du pain, le partage du repas, fraction du pain, la prière, la communion fraternelle, c'est déjà, sans qu'il le sache, il mettait en œuvre un modèle liturgique. La liturgie que nous avons aujourd'hui, elle n'est pas née de rien. Elle n'est pas née d'une volonté de mettre en structure, on va organiser, tiens, on va le faire comme ça. Non, c'est né de ces premières communautés. C'est leur modèle que nous avons aujourd'hui, auquel s'est adjoint d'autres choses. Donc c'est un modèle de vie communautaire, une vie de partage, aussi, dans la mise en commun des biens, voilà, et qui va donner toute la mesure de ce qu'était la vie fraternelle. Hein. Ils vendaient leurs biens, ils mettaient tout en commun, voilà. Donc ceux qui ont accepté de suivre Jésus, de suivre le Christ, qui ont accepté de se convertir, mais vous voyez bien par rapport à votre question, madame, sur la conversion, c'est même pas la question d'accepter de se convertir, mais comment on est dans une attitude de se laisser convertir. En fait, c'est ça. C'est dès l'instant où on est dans une attitude de réceptivité, comme si on accepte d'être un réceptacle, eh bien, on se laisse modeler, on se laisse convertir. Et finalement, la foi, l'intelligibilité de notre foi, elle peut être comprise à partir de cet abandon à l'amour de Dieu. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la nouveauté de la miséricorde de Dieu, parce que ça, c'était quelque chose de nouveau à l'époque de Jésus. Souvenez-vous, une fois, je vous avais dit, les Juifs avaient une représentation de la justice et de la sainteté de Dieu qui n'était pas le discours de Jésus lui-même, qui n'était pas le discours qu'il apportait. Donc il y a une nouveauté de la miséricorde de Dieu, il y a une nouveauté de la justice de Dieu selon un commandement d'amour, et ça c'est tout à fait nouveau, et ça c'est l'engagement total de Jésus. Et donc voilà une église naissante qui fait corps avec cela, qui fait corps avec le Christ et qui va inscrire toute sa vie dans une dimension nouvelle. Et donc cette dimension nouvelle, elle n'était pas exclusive. Alors bien sûr, les communautés vivaient enfermées parce qu'elles étaient, on était sous contexte de persécution, mais vous voyez bien qu'elles donnaient à voir à leur époque quelque chose de nouveau, quelque chose de particulier. Et Paul, que vous avez cité tout à l'heure, madame, ben Paul, c'est celui qui a le plus développé les traits fondamentaux de ce qu'est l'Église, de ce qu'est l'Église comme corps du Christ. Et donc le baptême, alors on pourrait dire que sa chute brutale, que sa cécité pendant 3 jours et 3 nuits, est une forme de baptême pour saint Paul. Il a été plongé directement dans la mort et ensuite dans la résurrection du Christ. Ces 3 jours pour lui d'obscurité, pas simplement d'obscurité visuelle, mais d'obscurité spirituelle, mystique presque, on pourrait dire. Voilà, ça a été son baptême à lui, son baptême brutal. Donc le baptême signifie bien la plongée dans la mort et la résurrection du Christ. Pour celle ou celui qui reçoit ce baptême appartient à Christ. Il appartient au Christ. Et Paul ne pouvait plus vivre sa mission en dehors du Christ. Il appartenait à lui. Quand il dit « je ne vis plus, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi », il ne s'est pas regardé être converti, vous voyez. Il a été brutalement, et il a vécu cette activité qui lui a fait dire en Galates 3.28, « Eh bien voilà, l'idée d'une égalité, c'est il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes qu'un en Christ. » Ça, ce sont les mots forts de Paul. Donc la communauté primitive, elle est appelée à réaliser cette vie nouvelle. Et on pourrait dire cette unité nouvelle en Christ. Elle ne le fait pas parce qu'ils sont bien ravis de se retrouver comme des amis tous les dimanches matins. Elle le fait parce qu'ils font corps avec le Christ, parce que c'est une unité au nom du Christ. Et c'est au nom du Christ qu'ils proclament le kérigme. Donc l'Église aujourd'hui, bien sûr, c'est le kérigme, c'est l'écriture, ce sont les sacrements, mais on confesse aussi que l'Église, elle est une, elle est sainte, elle est catholique et elle est apostolique. Alors,
excusez-moi, catholique en tant qu'universelle.
Oui, catholique. Voilà, mais je vais dérouler les points, justement, pour ça. Alors, le point de deux. L'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Alors d'abord, le point 2.2.1, on dit que l'Église est une. Alors le don d'esprit fait naître l'Église. Et c'est en cela qu'elle est unique. En raison même de l'esprit par lequel l'Église naît. Et c'est l'esprit du Christ. Il n'y a qu'un seul esprit. En cela, elle est unique, il est unique. Et chacun reçoit le don du même esprit qui sera fécond, mais d'une manière différente, selon chacune et chacun. Pourtant, c'est toujours le même esprit qui vit et qui agit en Église. Et lorsque l'Église est rassemblée. Donc l'Église forme un seul corps parce qu'il n'y a qu'un seul corps du Christ, qu'un seul et même corps du Christ, qu'un seul et même esprit. C'est donc de ce même esprit que l'Église est une. C'est pour cela que nous disons qu'elle est une. Elle est une, seulement on sait aussi qu'elle est organisée de manière hiérarchique, et dont la mission, c'est de garder vivant le dépôt de la foi. Alors elle le garde vivant par les sacrements, par la liturgie, par l'écriture. Et donc c'est par les sacrements que nous recevons dans l'Église que nous pouvons dire qu'elle est sainte. Et c'est notre point suivant. 2.2.2, l'Église une est sainte. Alors la sainteté de l'Église n'est pas sans nous poser des questions, bien entendu. Après les agissements criminels, dont nous avons eu écho, dont nous avons écho et dont nous continuerons d'avoir écho malheureusement. Bien sûr, dire que l'Église une est sainte, eh bien ça nous hérisse un peu parfois. Donc il faut expliquer pourquoi on dit que l'Église est sainte. L'Église est sainte parce que l'Église est d'abord sainte parce que c'est l'Église du Christ et que c'est le Christ qui est saint et pas les membres de cette Église. C'est le Christ lui-même qui est saint. Il est le saint de Dieu. Et comme l'Église est née de la volonté de Jésus-Christ, alors elle est sainte. Mais on dit aussi qu'elle a à le devenir, parce que ceux qui font l'Église et qui sont dans l'Église, ses membres, ne sont pas saints. Ils doivent le devenir. Donc c'est la dimension paradoxale d'une Église qui est sainte et qui en même temps a à le devenir. Dire que l'Église est sainte, c'est aussi reconnaître qu'elle est sanctifiante. Parce que c'est par elle que nous sommes sanctifiés lorsque nous recevons les sacrements. Nous sommes sanctifiés et nous les recevons que dans l'Église. Donc elle est sanctifiante. Et sa force de sanctification, eh bien, c'est l'action de Dieu qui continue dans l'Église et qui continue par l'Église. Pour nous tous, alors on pourrait dire pour les pécheurs, mais bon, vous voyez, avec des guillemets aussi, parce que nous avons tous à devenir saints, donc à être dans une sainteté à venir. Donc face au problème que représente le terme de sainteté, justement, voici ce que dit Joseph Ratzinger, qui reste tout à fait actuel. Il nous dit, en fin de compte, l'on ne peut ici que donner le témoignage de sa foi et dire pourquoi on arrive, malgré tout, dans la foi, à aimer cette Église. Pourquoi l'on ose toujours encore reconnaître, à travers les traits défigurés, le visage de l'Église sainteté. Elle est donnée par Dieu comme une grâce qui demeure en dépit de l'infidélité de l'homme. Elle est l'expression de l'amour de Dieu qui ne se laisse pas vaincre par l'incapacité de l'homme, qui se montre malgré tout et toujours à nouveau favorable à l'homme, qui l'accueille inlassablement comme un enfant prodigue qui se tourne vers lui, le sanctifie et l'aime. Vous voyez, ce texte, on peut le lire parfaitement, l'adapter à aujourd'hui. Cette Église dont les traits sont défigurés. Et surtout, ces deux mots, malgré tout, eh bien oui, malgré tout, on l'aime. Parce que c'est l'Esprit, parce que c'est le Christ, parce que c'est de sa volonté et que cette Église, elle est sanctifiante et qu'elle nous aime. Donc retenons les deux derniers mots, sanctifier et aimer. Comme un enfant prodigue qui se tourne vers lui, le sanctifie et l'aime. Parce qu'avec eux, ils indiquent la voie de Dieu pour l'homme, sanctification et amour. Et cela, nous le recevons dans les sacrements, par les sacrements. Donc c'est un amour qui ne cesse pas et qui demeure de tout temps dans l'Église et qui ne cessera pas. Alors, le paragraphe 4 de Lumen Gentium, qui est la constitution dogmatique de Vatican II sur l'Église, voilà ce que nous lisons. Une fois achevée l'œuvre que le Père avait chargé son Fils d'accomplir sur terre, le jour de Pentecôte, l'Esprit Saint fut envoyé qui devait sanctifier l'Église en permanence et procurer ainsi aux croyants, par le Christ, dans l'unique Esprit, l'accès auprès du Père. C'est lui, l'Esprit de vie, la source d'eau jaillissante pour la vie éternelle, par qui le Père donne la vie aux hommes que le péché avait tués, en attendant de ressusciter dans le Christ leur corps mortel. L'Esprit habite dans l'Église et dans le cœur des fidèles comme dans un temple. En eux, il prie et atteste leur condition de fils de Dieu par adoption. Cette Église qu'il introduit dans la vérité tout entière et à laquelle il assure l'unité de la communauté et du ministère, il bâtit et la dirige grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques Il l'orne de ses fruits, par la vertu de l'Évangile. Il fait la jeunesse de l'Église et la renouvelle sans cesse, la cheminant à l'union parfaite avec son époux. L'Esprit et l'Épouse, en effet, disent au Seigneur Jésus « Viens ». Ainsi l'Église universelle apparaît comme un peuple qui tire son unité de l'unité du Père et du Fils et de l'Esprit-Saint. Donc cette unité, c'est une unité universelle. Ce qui nous amène à notre point 2, 2, 3, l'Église une, sainte, est catholique. Et donc la catholicité caractérise l'Église dans le sens où elle se détermine. Dites-moi. L'Église une, sainte, est catholique.
Est.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Tout à fait. Donc, l'Église se détermine par rapport à son sens proprement chrétien, même si le terme catholique ne se trouve pas non plus dans le Nouveau Testament. On ne trouve pas le terme de catholique dans le Nouveau Testament. On va trouver le terme de chrétien, mais pas le terme de catholique. Voilà, on lit dans Actes 11, 26, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétien. Le terme de catholique, lui, il a été écrit pour la première fois par Ignace d'Antioche. Donc Ignace d'Antioche en 110 ou 115, on ne sait pas trop. Ignace écrivait aux chrétiens pour les renforcer, pour les garder dans leur foi. Hein, il avait la charge de chrétien en tant qu'évêque et il voulait les affermir dans leur foi. Et donc pour les soutenir, Ignace les exhorte à rester fermes dans la foi au Christ. Rester ferme dans cette période de persécution. Et donc l'enjeu de la fidélité au Christ, dans ces temps troublés, eh bien, c'est de toujours maintenir l'unité. L'unité autour d'un seul et même centre qui est le Christ. Et donc Ignace écrit aux Romains, aux Smyrniens. Il leur affirme cette unité en Christ en disant: l'Église catholique se trouve là où est Jésus-Christ. Donc vous pouvez mettre des guillemets. Ignace dit: l'Église catholique se trouve là où est Jésus-Christ. Voilà le moment où le mot catholique est prononcé.
Quelle est la différence entre chrétien et catholique ?
Alors on peut être chrétien aujourd'hui, parce que le Concile de Trente est passé et que la séparation avec liée à Luther est passée. Aujourd'hui, on peut être chrétien sans être catholique. Il y a les chrétiens catholiques, nous-mêmes, les chrétiens évangéliques. Voilà, après la séparation, voilà, on dit protestant maintenant, mais le terme de catholique, il a été refusé à un moment donné. Puis il y a les chrétiens orthodoxes, les chrétiens d'Orient. Donc on peut être chrétien sans être catholique, bien entendu. Catholique, c'est appartenir à une institution hiérarchique qui a pour tête le pape qui est le successeur de Pierre. Et donc les protestants refusent cette gouvernance hiérarchique et cette appartenance. Donc le terme catholique va recouvrir un double sens qui est à la fois celui d'unité. Les catholiques font unité autour d'une même foi, mais il y a aussi la dimension d'universalité. Alors, avec votre question, on voit bien que ce terme-là, le terme de catholique a provoqué des désaccords. Les désaccords, ce sont ceux que je vous ai exposés. C'est-à-dire la rupture avec les évangéliques, ils ont choisi un autre mot. Les protestants évangéliques et les orthodoxes ont préféré ce terme d'orthodoxie. Mais peu importe si les qualificatifs changent, il n'empêche qu'il s'agit toujours de la confession à une même foi, à un même Christ. Le Christ ne change pas.
C'est l'unité quand même qui change. Et pas l'unité.
Oui, mais dans le terme de catholique, il y a de vouloir maintenir l'unité, l'unité dans la foi en Christ. Alors après, la question de l'unité avec les autres chrétiens, elle se fait maintenant dans le respect de leurs pratiques. On va pas. Il fut un temps qui est pas si loin que ça où il y avait où l'unité c'était les orthodoxes deviennent catholiques, c'était ça. C'est-à-dire l'unité c'était bien, mais c'était eux qui devaient devenir catholiques. Donc ça posait des tensions et même des violences. Donc il a fallu que les choses se calment un petit peu et puis qu'il y ait du respect, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de prosélytisme dans la manière de vivre l'unité. Donc je crois, je ne suis pas ecclésiologue, mais il me semble que les tensions sont apaisées, qu'il y a un apaisement, que l'on peut prier ensemble pour l'unité. Et puis chacun vit la même foi en Christ, me semble-t-il, c'est à tenir. C'est l'unité de la foi en Christ qui est à tenir.
C'est pour ça que le mois de novembre est un mois œcuménique.
Oui, tout à fait. Donc voilà, l'insistance, c'est surtout l'insistance de la fidélité au témoignage apostolique. Donc à ce titre, nous sommes frères des orthodoxes, des protestants, voilà, et nous sommes leurs frères chrétiens au nom du Christ, on peut dire ça. Donc maintenant, on arrive justement au point 2.2.4. L'Église une, sainte, catholique, est apostolique. Elle est apostolique. Donc le don de l'Esprit à la Pentecôte, on revient au fondement, à la Pentecôte, inscrit l'Église dans un temps qui dure, dans une temporalité qui n'est plus seulement une temporalité chronologique, mais une temporalité eschatologique, dite eschatologique. Voilà, qui va vers la fin. Voilà. L'eschaton, celui qui va accomplir les fins dernières. Et donc ce terme eschatologique, c'est un terme qui a été beaucoup employé au XVIIe siècle. Donc il provient du terme eschaton. L'eschaton, c'est le victorieux. Voilà, c'est le victorieux. Et donc, l'eschatologique, ce sera la théologie des fins dernières. Il y a même une doctrine des choses dernières. Ça veut dire qu'il y a une projection de l'Église en avant d'elle-même. Elle est aujourd'hui, elle naît du passé, elle est aujourd'hui et elle est projetée en même temps dans l'avenir. C'est-à-dire vers un accomplissement de l'histoire. On pourrait même dire un accomplissement de l'histoire qui récapitule le Christ ou qui se récapitule en Christ. C'est-à-dire une réalisation en plénitude. L'eschatologie, l'Église eschatologique nous dit que l'Église, elle est placée dans un temps qui va s'étirer en avant d'elle-même. C'est cela. Le temps chronologique fait que ce que nous vivons maintenant, dans 10 minutes, une heure, ce sera fini. Voilà. l'Église ne peut pas entrer dans ce temps fini. Elle est projetée toujours en avant d'elle-même. Et donc, de fait, il y a une continuité à partir d'un moment d'origine, et que ce moment d'origine, bien, c'est le moment où Pierre prend la tête de l'Église et qu'il est lui-même la tête. Et à partir de ce moment-là, il y aura une succession dans l'Église, une succession papale qui fait que l'Église ne peut pas ne pas avoir de tête. Vous voyez, l'Église ne peut pas avoir un pape, une autorité suprême, on pourrait dire. Et donc, c'est une succession qui projette toujours en avant. Oui, c'est enregistré. J'appuie. Qui projette toujours en avant. Donc, ce temps a commencé à la Pentecôte, avec l'envoi de l'Esprit sur les apôtres. Ils sont les initiateurs, voilà, et ils demeurent les représentants de l'Église. Et aussi des papes qui lui succéderont jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de continuité de l'Église à la suite des apôtres. Et parce que c'est à la suite des apôtres, alors l'Église est apostolique. Elle s'inscrit directement dans cette succession-là. C'est aussi l'affirmation de la fraternité, de la communauté qui est unie au nom et autour du Christ, dans l'Église. Et cette unité, elle se concrétise dans l'Église, dans la communauté, dans la fraternité. Ça veut dire que finalement l'Église, elle ne cesse pas d'être un événement, puisqu'elle est toujours projetée en avant. Elle demeure toujours un événement pour celui qui rencontre l'Église et qui rencontre le Christ dans l'Église. Donc elle est visible dans le monde et elle se rend visible dans le monde tout en étant cette institution hiérarchique, c'est-à-dire organisée selon une gouvernance particulière. Et donc la gouvernance particulière de l'Église, elle est héritée des apôtres. Il a bien fallu organiser les communautés, organiser l'Église au temps des apôtres, au temps de saint Paul. Donc il fallait une tête, il fallait des hommes proches de l'enseignement du Christ pour perpétuer l'enseignement du Christ.
Comment étaient nommés les événements ?
Donc si on dit que l'Église ne cesse pas d'être événement, qu'elle est justement visible sous la forme d'une institution hiérarchique, eh bien, il n'empêche que l'Église est aussi le lieu des sacrements et des sacrements de la foi. C'est ça l'originalité de la foi chrétienne. Elle se donne, elle se livre et elle se reçoit dans l'Église à partir et dans les sacrements du Christ. Elle ne s'est pas donné elle-même les sacrements, l'Église. Elle les reçoit du Christ lui-même qui a montré le chemin. Et c'est parce qu'elle a reçu du Christ lui-même que les sacrements, que dans les sacrements, Dieu est présent. Et c'est notre point 3. Dieu présent dans les sacrements. Alors le mot sacrement vient de la traduction latine de la Bible à partir du grec mysterion, d'où découle le terme latin mysterium ou alors sacramentum. Bon, vous n'êtes pas obligé de noter tout ça. Et de fait, c'est de cette dernière traduction latine sacramentum que provient le mot sacrement. Et c'est donc au IIIe siècle, IIIe, IVe siècle, que ce terme-là a été préféré, même s'il ne figure pas dans l'Ancien Testament. On a choisi le terme sacramentum. Donc dans l'Église, les sacrements tiennent leur origine, mais tout ça je vous le savez, hein, je ne fais que redire des choses que vous savez, des gestes de Jésus, de ses paroles et de ses gestes. Et les premiers paragraphes de la Constitution de Lumen Gentium, le Christ est la lumière des peuples, hein, ce que signifie Lumen Gentium, affirment que l'Église dans le Christ est en quelque sorte le sacrement de l'union intime avec Dieu et qu'elle appartient au Christ en union avec lui. Je vous lis cette constitution, c'est le paragraphe 1, le texte 7. L'Église, étant dans le Christ en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'union de tout le genre humain, elle se propose de mettre dans une plus vive lumière pour ses fidèles et pour le monde entier, en se rattachant à l'enseignement des précédents conciles, sa propre nature et sa mission universelle. À ce devoir, qui est celui de l'Église, les conditions présentes ajoutent une nouvelle urgence. Il faut que tous les hommes, désormais plus étroitement unis entre eux par les liens sociaux, techniques, culturels, réalisent également leur pleine unité dans le Christ. Donc vous voyez là, Lumen Gentium nous dit on doit être unis entre nous, mais chaque homme, et là en élargissant chaque femme bien entendu, unis aussi entre nous par les liens sociaux, techniques, culturels. C'est-à-dire on n'est pas chrétien uniquement quand on est à l'Église. On est des croyants qui sommes parfaitement insérés dans le monde social, technique et culturel. Donc la question de l'unité, elle se pose par les sacrements dans le sens où les sacrements vont rassembler et vont dispenser à l'Assemblée des chrétiens le moyen sacramentel de l'union. Vous voyez, le sacrement dans l'Église réalise une union sacramentelle entre nous. Nous recevons le même sacrement de l'Eucharistie. Et on le reçoit en même temps, au même moment. Et ce sacrement, il est fondé lui-même sur le corps livré et le don du sang livré. C'est sur le corps, les paroles et les gestes de Jésus que le sacrement est fondé, pas sur autre chose. Le Christ est le sacrement par son corps et par son sang. Et tous les sacrements s'originent sur ses gestes et les paroles. Tout vient du Christ. Et donc le sacrement va se déployer dans un rite. Ça nous amène à notre point 3.1, le rite. Donc si on dit qu'au cœur du sacrement, il y a la parole, eh bien cette parole, elle se fait rite dans la liturgie. Mais dans la liturgie de l'Église. Et on le sait bien, l'homme est rituel, nous sommes des êtres rituels. Le rite rythme notre vie. On fait les mêmes gestes au même moment. Voilà, et on le fait la plupart du temps sans même s'en rendre compte, sans y penser. Donc le rite fait l'homme, il régule, il organise notre vie, et y compris notre vie spirituelle. C'est pour ça que nous pouvons entrer si facilement dans le rite, parce que nous sommes nous-mêmes des êtres qui ont expérimenté le rite. Et donc le rite rend visible le mystère de la présence de Dieu dans le sacrement. Le sacrement rend visible la présence du mystère de Dieu. On va dire aussi que le sacrement est le signe le signe de ce qu'il signifie. Le sacrement est le signe de ce qu'il signifie, en raison du don de Dieu, par Dieu, en Dieu. Alors au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin a parfaitement déterminé cela sur le sacrement qui est le signe de ce qu'il signifie en parlant de signe performatif. Le sacrement fait ce qu'il dit. Il est efficace immédiatement. Il n'y a pas de temporisation. Lorsque nous recevons le corps du Christ, nous le recevons immédiatement. Il est immédiatement efficace. On dit que les sacrements effectuent ce qu'ils signifient. Ils sont performatifs. Le sacrement effectue ce qu'il signifie. Ils sont aussi médiation. Les sacrements sont médiation et participation au mystère pascal. Et ils peuvent être médiation et participation par la grâce de l'Esprit Saint dans l'Église. En fait, on voit bien l'unité de tout cela. Le sacrement dans l'Église nous sanctifie, rend la communauté fraternelle unie. Le sacrement est efficace et en même temps, on ne peut pas aller vers Dieu sans l'Église et sans les sacrements. On ne pourrait pas recevoir le Christ en dehors de l'Église et en dehors du sacrement, ou peut-être par sa parole révélée dans les Écritures. Donc les sacramentaux, ben, ça va être ce qui va venir à côté du sacrement. Ça veut dire qu'il y a de la sacramentalité autour du geste, autour de la parole. Il va y avoir de l'obélite, voilà, des bougies. Il y a des sacramentaux. Parce qu'il faut que le sacrement soit entouré de sacramentalité.
Il y en a combien de sacrements ?
7. 7. Alors si nous disons que tout sacrement est rite, en revanche, un rite ne devient pas sacrement obligatoirement. Un rite devient sacrement que s'il est habité par la parole de Dieu. Vous voyez ? Sinon, c'est des rites magiques, c'est autre chose, on est dans un autre... Parole de Dieu est bien entendu habitée par l'Esprit Saint, de l'Esprit Saint. Donc pour le dire autrement, au cœur du sacrement, il y a la parole et le rite est la forme que prend la parole. Le rite liturgique du sacrement permet la rencontre avec le croyant, tout en attestant la mission de l'Église. Ça, c'est ce que nous dit aussi le paragraphe 7 de la Constitution dogmatique Lumen Gentium, que je vais vous lire pendant que vous finissez d'écrire. Tous les membres doivent se conformer à lui, jusqu'à ce que le Christ soit formé en eux. C'est pourquoi nous sommes assumés dans les mystères de sa vie, configurés à lui, associés à sa mort et à sa résurrection, en attendant de l'être à son règne. Encore un pèlerinage sur la terre, mettant nos pas dans les traces des siens, à travers la tribulation et la persécution. Nous sommes associés à ses souffrances, comme le corps à la tête, unis à sa passion pour être unis à sa gloire. De lui, le corps tout entier, par les ligaments et les jointures, tire nourriture et cohésion pour opérer sa croissance en Dieu. Dans son corps, c'est-à-dire dans l'Église, il dispose continuellement les dons des ministères par lesquels nous nous apportons mutuellement, grâce à sa vertu, les services nécessaires au salut, en sorte que, par la pratique d'une charité sincère, nous puissions grandir de toute manière vers celui qui est notre tête. pour que nous puissions nous renouveler en lui sans cesse, il nous fait part de son esprit, qui, unique et présent, identique à lui-même dans la tête et dans les membres, vivifie le corps entier, l'unifie et le meut, si bien que son action a pu être comparée par les saints-pères à la fonction que remplit dans le corps humain l'âme, principe de vie. Vous voyez, vous pourrez relire ces textes-là, peut-être pour vous-même, et puis pour mieux les comprendre. Mais on voit bien que le rite chrétien, par les gestes et par les paroles, qui sont faites devant l'assemblée, eh bien, amène aussi un profond respect à la fois de ce dont nous sommes témoins et un profond respect mutuellement dans la communauté. C'est pas simplement un spectacle que nous voyez, c'est-à-dire ce que nous voyons, nous le recevons aussi comme sacrement. Nous sommes pas seulement spectateurs de ce que nous voyons, nous le recevons totalement. Et là, en le recevant comme ça, nous découvrons la dimension sacrée du sacrement. Et le recevons, et le recevant, eh bien, nous en faisons l'expérience. Cette expérience, elle peut être témoignée aussi. Ce n'est pas quelque chose que nous gardons pour nous-mêmes. Nous la recevons, elle agit en nous, et elle doit produire une action aussi, c'est-à-dire à la fois découvrir, nous faire découvrir l'intériorité de notre foi et en même temps nous projeter en avant dans une action en responsabilité. Parce que nous partageons de manière communautaire les mêmes rites et les mêmes sacrements. Ça veut dire qu'il y a de l'individualité et en même temps du communautaire. Nous vivons les sacrements en communauté, mais nous les recevons personnellement. Nous les recevons personnellement et en même temps, tous les autres l'ont reçu en même temps que nous. Voilà, c'est une dimension du sacrement qui est parfois bon à voir, voire en même temps la dimension personnelle et l'unité dans la foi qui se partage dans la réception du sacrement. Alors, notre point 3.2, justement, la liturgie. On est passé du rite et nous arrivons à la liturgie. Alors, le mot liturgie, il est fondé de deux mots grecs. Donc, ourgos ou ergon en grec, c'est-à-dire urgie. Voilà, et l'urgie, c'est le faire, c'est le travail. C'est l'acte de faire. Et donc, liturgie, il vient aussi de Laos. Laos, c'est le peuple en grec. Et donc, la liturgie, c'est l'action du peuple, c'est le faire du peuple. C'est le peuple qui met en action un faire. Et donc, dans la liturgie, le peuple met en action un faire qui est un rite. Un faire qui est un faire rituel. Et donc on connaît bien ce terme-là, pas simplement dans la liturgie, mais quand on dit métallurgie, sidérurgie, eh bien voilà, une action sur le fer, une action sur le métal. Donc la liturgie, cette urgie, elle est importante, c'est l'agir, c'est le faire. Donc cet agir, c'est un agir particulier parce qu'il s'adresse à quelqu'un. Il s'adresse à quelqu'un en vue de quelque chose, mais en vue de quelque chose de plus élevé que lui. Et donc Louis-Marie Chauvet dit très justement à propos du sacrement et particulièrement de la liturgie, il dit « la liturgie est objectivement intelligente, parce qu'elle est intelligente, elle est dispensée de manière intelligente, elle est construite de manière intelligente. La liturgie est objectivement intelligente, elle est subjectivement intelligible, mais elle n'est jamais intellectuelle. » Voyez la différence. On n'a pas besoin d'avoir un QI de 150 pour comprendre la liturgie. Parce que la liturgie, elle ne se comprend pas en premier, elle se vit d'abord. Elle se vit. Mais pour se vivre et se recevoir, elle doit être objectivement intelligente. Parce que si elle est intelligente, alors on la comprend. Objectivement, on la reçoit. On n'a pas trop de questions. Elle est subjectivement intelligible parce que la manière dont on la reçoit, eh ben, elle est différente selon que ce soit vous, que ce soit moi. Voilà, il y a de la subjectivité dans la réception. Mais que ce soit l'un ou l'autre, ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas une opération intellectuelle, la liturgie. Autrement dit, elle pourrait se résumer par cet axiome, ne faites pas ce que vous dites, non, ne dites pas ce que vous faites, plus exactement, ne dites pas ce que vous faites, mais faites ce que vous dites. Et ça, Marie Chauvet a raison de dire cela, de reprendre cet axiome-là pour la liturgie. La liturgie n'a pas besoin d'être expliquée. Vous voyez, elle se comprend d'elle-même. Un prêtre qui, au moment de la consécration, expliquerait ce qu'il est en train de faire, ça ne conviendrait pas. Ce n'est pas le lieu, parce que la liturgie ne s'explique pas. Elle se vit. Donc, ne dites pas ce que vous faites, mais une fois que vous recevez le sacrement, eh bien, faites ce que vous dites, faites ce que vous avez reçu. Donc ça veut dire qu'en cela, elle ne peut pas se diluer dans un discours, ni même un discours théologique, vous voyez bien. On est dans une autre dimension. La liturgie fait, elle dit, elle montre et elle nous fait participer. D'abord parce qu'on répond au prêtre. Il n'est pas tout seul à faire ses gestes et prononcer ses paroles. On est interpellé, il y a un dialogue, il y a des réponses. Parce qu'à travers la liturgie, on est rendu participant. On est acteur aussi, on ne fait pas que regarder, on n'est pas passif. Mais par contre, on va participer à un langage différent du langage ordinaire. C'est le langage de la liturgie. Ce n'est pas le langage que nous utilisons au quotidien dans la vie courante. Ça veut dire que la liturgie, elle va créer un espace symbolique. Ça, c'est important. Un espace symbolique. D'abord parce qu'on ne va pas crucifier quelqu'un tous les dimanches. Donc forcément, on entre dans un espace symbolique. Et les paroles du sacrement nous font entrer dans cet espace-là. On accepte de vivre, de réitérer par des paroles parfois différentes selon les prières eucharistiques, mais qui demeurent les mêmes dans le fond. Ça ne change pas. Donc cela crée en nous un espace, cela crée un espace symbolique dans lequel nous entrons facilement. Et donc cet espace symbolique, il crée une distance, forcément, une distance entre la vie ordinaire et la liturgie. C'est-à-dire que dès l'instant où on passe le parvis de l'église, où on passe la porte, nous savons inconsciemment ou consciemment, enfin peut-être qu'on ne se le dit pas comme ça, nous entrons dans un langage symbolique. Voilà, on n'est plus dans le même langage et nous y entrons facilement. Et donc ça met à distance de l'ordinaire par rapport à l'utilitaire, l'ordinaire, nous sommes là un peu éloignés de cela. C'est pourquoi le rite met en œuvre dans la liturgie, c'est toujours une mise en œuvre évangélique qui nous renvoie à la transmission, c'est-à-dire à la manière de vivre ce que l'on a reçu pour pouvoir le redonner à son tour. C'est-à-dire, cela nous ouvre à la dimension éthique du sacrement. L'éthique, parce que si nous faisons référence à la théologie sacramentaire, du Père Louis-Marie Chauvet. Je vous invite à voir son grand ouvrage sur symboles et sacrements. Eh bien, Louis-Marie Chauvet fait référence à trois pôles indissociables qu'il faut tenir: l'écriture, sacrement et éthique. Ces trois pôles sont vraiment le socle à partir duquel nous tenons une unité de la foi dans l'Église, comme croyantes et croyants recevant les sacrements. Et donc les chrétiens ne doivent pas, on ne doit pas favoriser un pôle par rapport à un autre. L'écriture par rapport aux sacrements, ou les sacrements par rapport à l'éthique. Voilà, il faut tenir les trois, c'est une unité indissoluble. Alors, nous arrivons à la conclusion, parce qu'il nous reste un petit quart d'heure pour vos questions. Donc la foi de l'Église, c'est la foi des chrétiens. Je ne vous apprends rien en vous disant cela. Être chrétien doit se déployer dans un « nous » et non pas dans un « moi ». C'est le « nous » ecclésial. Ce « nous » fait partie de notre identité. Parce que notre identité de croyante et de croyant s'inscrit dans une communauté. Ensuite, parce que être chrétien, c'est témoigner et vivre des sacrements en communion avec tous ses membres. C'est-à-dire tous les membres qui appartiennent au Christ dans l'Esprit Saint. Et donc la foi de l'Église, elle naît, mais de manière explicite, de la venue du royaume en la personne de Jésus. Jésus est le royaume sur terre, et l'Église, elle naît de cet événement. L'Église naît de l'événement de la présence du royaume sur terre en la personne du Christ. Marc 1,15, on peut lire « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Donc il ne s'agit pas seulement d'une annonce, mais bien d'affirmer que le royaume de Dieu s'est manifesté. C'est cela aussi, vivre dans l'Église. Qu'il s'est manifesté en personne, c'est ça aussi l'objet de notre foi. Que le Christ, le Fils de Dieu, s'est manifesté en personne, qu'il est là par les sacrements, en Église, et qu'il s'est approché de nous, et qu'il continue de s'approcher de nous, et qu'il continuera après nous dans une Église tendue dans ce temps eschatologique. Donc la foi de l'Église, c'est d'abord la foi en Christ. On croit en Christ, ensuite on croit en l'Église. Et donc c'est dans la foi du Christ qu'elle est vivante, qu'elle est active, dans le temps et dans le temps d'aujourd'hui. Voilà.